Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
De retour donc pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, c'est la libre antenne, 20 minutes pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'actualité, aucun sujet n'est tabou, appelez-nous donc 33 9 693 693 70, vous nous rejoignez également sur la page Facebook de l'émission, vous nous envoyez vos commentaires, mais aussi n'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous recontacter, que vous puissiez être évidemment en direct avec nous, et j'en profite, je le rappelle très souvent, vos numéros de téléphone, envoyez-les en message privé, sinon tout le monde les lit et tout le monde a accès évidemment à vos coordonnées qui restent tout de même personnelles. Alors, François Mazan parlait à l'instant, il a terminé d'ailleurs son journal avec cette polémique au Gabon. La Cour constitutionnelle a reconnu l'indisponibilité temporaire du président Ali Bongo, hospitalisé en Arabie Saoudite. L'opposition dénonce une violation de la Constitution. Vous êtes nombreux justement à souhaiter commenter cette polémique, ce bras de fer. Tokendé, bonjour.
Bonjour Anna, bonjour le Gabon et bonjour Port-Gentil.
Alors vous êtes à Port-Gentil justement, vous souhaitiez intervenir sur cette polémique. Elle est justifiée ou pas selon vous?
Non, elle n'est pas du tout justifiée, monsieur Juan. Parce que bon, en première position, nous allons d'abord dire que le gouvernement nous a menti. Cela fait pratiquement plus de 3 semaines que M. Ali Bongo est malade. Nous n'avons rien comme image, nous n'avons rien comme certificat médical qui prouve à suffisance que Ali Bongo est réellement malade ou pas. Donc, la vacance du pouvoir devait être prononcée si Ali Bongo est toujours dans un état sévère, selon le porte-parole du gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que Mme Bourentio avec les juges ont dû modifier l'article 13 de la Constitution pour permettre à M. Mazaga Moussavou d'être, de présider le Conseil des ministres, chose qui est illégale et qui ne permet pas à M. Mazaga Moussavou de pouvoir le faire.
Alors, donc finalement, cette polémique, elle vous semble justifiée. L'opposition a raison de dénoncer une violation de la Constitution. Je rappelle tout de même que c'est l'article 13 qui statue sur la vacance du pouvoir. Cet article prévoit la vacance de poste de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, mais à aucun moment, l'article 13 ne prévoit une indisponibilité temporaire du président de la République. Donc, qu'a fait la Cour constitutionnelle? Elle a rajouté un alinéa à cet article 13 qui prend en compte justement l'indisponibilité temporaire. Et ce que dit l'opposition, c'est que la Cour n'a pas le droit d'amender la loi fondamentale. Seul le Parlement et le peuple, par la voie du référendum, ont la possibilité de réviser la Constitution. Donc pour vous, il y a eu violation de Constitution cette semaine au Gabon.
Effectivement.
Bon, bah écoutez, je pensais que vous seriez plus bavard, Tokendé. On va donner la parole à Diumi, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci Juan. Bon, la première chose que je constate, c'est que ce n'est pas toute l'opposition gabonaise qui porte la thèse de la vacance du pouvoir. Monsieur Ginzouba Ndama, qui vient d'obtenir 10 députés pour la prochaine Assemblée nationale, a souhaité un prompt rétablissement au président de la République. Donc, il se désolidarise de cette question de vacance du pouvoir. Je crois qu'on ne peut pas se permettre, Juan, de bloquer la machine État dans notre pays, le Gabon. Et c'est pour cette raison que légitimement, tel que prévu par la Constitution gabonaise en son article 88, le gouvernement a donc, par une saisine, saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse se prononcer sur le fait de présider et de convoquer et de présider un conseil de ministres, puisque vous le savez très bien, le conseil de ministres est l'organe de prise des décisions de l'État gabonais. Oui. Et donc, je pense
mais que... Alors, vous dites qu'il n'y a pas lieu de polémiquer, mais est-ce qu'on peut, comme ça, ajouter un alinéa dans un article constitutionnel? Les gens se disent, bon, bah à ce moment-là, on peut modifier, retoquer, amender à tout moment une constitution sans passer par le Parlement, sans demander l'avis du peuple.
Non, bah écoutez, Madame Bourassa, qui est aguerrie sur ces questions-là, est claire. Il s'agit d'une précision, c'est-à-dire qui permet à l'administration gabonaise de continuer à poursuivre, parce que l'enjeu aussi, Juan, ce sont les populations. N'oubliez pas que les décisions du Conseil des ministres ont un impact direct sur les populations. Alors, si l'opposition a fait le choix du blocage, c'est qu'elle a fait le choix de priver les populations gabonaises d'un certain nombre de services qu'elles pourraient avoir. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. Il y a que le président de la République est en place. Il est hospitalisé comme tout être humain et il sera en place d'ici quelques temps selon le discours tenu par le porte-parole de la présidente.
Oui, enfin, aucune date de retour n'a été communiquée. Hein. Vous dites d'ici quelques temps. Dernière intervention du porte-parole de la présidence, c'était dimanche et voilà, le communiqué parlait d'un malaise, de vertige persistant, conséquence d'un saignement justifiant une prise en charge médicale en secteur hautement spécialisé. Mais à aucun moment, voilà, on ne parle exactement de la maladie ou du problème exact du président Bongo, ni d'un éventuel retour imminent, comme vous le laissiez entendre, Djoumi. Tokendé, rapidement, vous souhaitiez revenir et réagir.
Oui, en principe, c'était juste pour signaler que actuellement, là, au Gabon, c'est vraiment la psychose. Parce que nous ne nous connaissons même pas. Vous avez vu, dernièrement, il y a eu le président Abdelaziz Bouteflika, qui était aussi dans ce même cas de figure, mais au moins, quand même, la télévision algérienne avait montré justement que Abdelaziz Bouteflika se trouvait dans une structure spécialisée, qu'il a reçu des soins, on a filmé, on nous a montré, mais ici au Gabon, c'est totalement la psychose, on ne connaît pas, on ne nous a rien dit, on ne filme pas, on vient juste nous faire des déclarations à la télévision nationale comme ça pour nous dire que bon voilà, donc, il est fatigué, il est malade.
Et Tokendé, vous ne pouvez pas vous contenter de communiquer. Ce que vous attendez maintenant, ce sont des images ou voire même des photos. Ça vous rassurerait, donc, si je comprends bien. Le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion certainement d'y revenir la semaine dernière. Merci à tous les deux, Tokendé de Port-Gentil et Djoumi qui nous appelaient de Libreville, la République démocratique du Congo. Beaucoup de réactions encore après le divorce pour le moins spectaculaire au sein de l'opposition congolaise, l'unité autour d'un candidat commun a volé en éclats le lendemain de la signature d'un accord à Genève. Les deux poids lourds de cette coalition ont décidé de ne plus soutenir ce candidat commun, à savoir Martin Fayulu. Bonjour John.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Russie.
Vous êtes à Kinshasa et pour vous, cette situation est décevante.
Juan, 17 ans de règne du régime Kabila, avec un résultat, un tableau de résultats complètement négatif. Donc, à ce jour, tout le peuple congolais a l'espoir d'une alternance à la tête du pays. Et cette alternance est, en quelque sorte, une alternance qui doit être intégrée par l'opposition.
Oui, alors, forcément. Pour qu'il y ait alternance, il faut que ce soit l'opposition qui remporte l'élection présidentielle, logiquement. Mais c'est mais pour que l'opposition puisse avoir des chances de remporter le scrutin du 23 décembre, elle doit forcément, impérativement, se présenter, comment dire, de façon unie.
Exactement. Vous rendez compte un peu le désespoir qu'a le peuple congolais à ce jour. Parce que l'unique voie pour arriver à une alternance, c'est avoir une opposition qui est unie, capable de nous offrir un candidat commun qui puisse rivaliser au candidat de la majorité. Et ce candidat commun, Juan, je vais vous dire une chose. C'est que, de mon point de vue, et c'est le point de vue de beaucoup de Congolais, c'est que ce choix sur Martin Fayulu, c'était un choix important. Je vais vous expliquer par deux points. Le premier point, c'est par rapport à l'opposant Vital Kamerhe.
Bon, attendez. Alors bon, je voudrais pas qu'on polémique sur le choix du nom parce que je sens qu'on pourrait rester toute la matinée avec vous au téléphone, John, pour aller droit au but. Aujourd'hui, l'opposition est divisée. Vous avez ces quatre candidats qui continuent à soutenir Martin Fayulu, qui se sont rencontrés hier à Bruxelles et qui disent il faut impérativement que les deux ténors reviennent sur leur décision. Incontestablement, on le sait tous, ils ne reviendront pas sur leur décision. Quelles conséquences pour l'opposition aujourd'hui ?
La conséquence, c'est que c'est le boulevard qu'on a ouvert pour le candidat de la majorité. Parce que nous avons une opposition qui est déchirée, une opposition qui n'est pas unie. Et nous, on attendait à ce que ce soit une opposition unie, qui nous présente un candidat unique, capable de rivaliser contre. Alors, quand on nous dit que Martin Fayulu n'a pas la base forte, c'est du mensonge. C'est exactement le rôle que devraient jouer ceux qui s'appellent leaders, qui l'ont choisi pour ce poste-là.
Mais enfin, jeune.
Ces leaders-là devraient absolument convaincre leur base pour permettre à ce que ce candidat soit connu de tous et qu'il y ait un plan de société qui soit accepté par le peuple congolais et ce plan de société soit comme une alternative au pouvoir en place.
Bien sûr, c'est tous pour un, comment on dit déjà, j'ai un trou de mémoire, tous pour un, c'est logiquement la situation idéale. Seulement, il faut reconnaître aussi que Martin Fayulu n'a pas une assise nationale, il est nettement moins populaire à l'échelle nationale que Vital Kamerhe ou encore Félix Tshisekedi. Là aussi, le débat est loin d'être clos, John. On aura, et c'est promis, parce que je vois le nombre d'appels sur cette actualité, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, d'autant que, allez, la semaine prochaine, c'est bien ça, doit commencer la campagne électorale en vue de la présidentielle du 23 décembre. Simon Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dakar, Simon Henry, et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour saluer la décision des États-Unis d'exclure la Mauritanie de l'AGOA. Alors l'AGOA, je rappelle que c'est un partenariat commercial qui permet aux produits africains d'avoir un accès privilégié au marché américain grâce à des réductions de taxes douanières. Et pour justifier donc cette exclusion, Donald Trump invoque la persistance de pratiques esclavagistes en Mauritanie. Et vous dites: enfin une bonne décision de l'administration Trump.
Parfaitement. Je suis très sensible à cette question parce que, d'abord, en tant que juif, la discrimination sur base ethnique me concerne. Et les esclaves en Mauritanie sont avant tout des Noirs. Alors, cette décision aura un impact limité au point de vue économique, mais elle aura un impact politique important. Puisque d'abord, tout le monde se rappelle que Trump avait traité les pays africains de pays de merde et cette décision redorera peut-être un peu l'image des USA. Ensuite, la puissance des États-Unis est telle que cette décision pourra influencer les autres pays à exercer des pressions. Et enfin, cette décision constitue un soutien aux activistes qui sont emprisonnés en Mauritanie lorsqu'ils luttent contre l'esclavage. Parce que le paradoxe est le suivant. La Mauritanie a voté des lois, comme la Tunisie vient de le faire, contre les discriminations. Mais il n'y a pas de disposition pour appliquer ces lois, ni de volonté politique.
En tout cas, ce n'est pas ce que disent les autorités mauritaniennes, qui ont vivement réagi évidemment à cette décision de l'administration Trump. Le ministre des Affaires étrangères mauritanien assure que le phénomène a disparu de la société mauritanienne et que les séquelles qui subsistent sont en voie d'éradication. C'est-à-dire, oui, les autorités disent oui, il y a encore des séquelles, mais elles sont en passe de disparaître. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout, on se dirige vers la fin de ce fléau.
Bon, les autorités sont mal prises parce qu'elles sont elles-mêmes parties de l'ethnie qui esclavagise les autres. En fait, c'est un phénomène social, traditionnel. Mais alors pourquoi les activistes mauritaniens qui réclament l'application de la loi sont encore pourchassés et emprisonnés aujourd'hui en Mauritanie?
Oui.
Moi, j'espère que la décision de l'administration mettra la pression sur les autorités pour que au moins ces activistes aient libre accès à l'expression publique.
Oui, c'est ce que regrettent d'ailleurs les États-Unis, qui disent dans leur communiqué que le gouvernement mauritanien continue de restreindre la capacité de la société civile à s'exprimer sur les questions d'esclavage. Merci beaucoup Simon Henry de nous avoir appelé et d'avoir participé à la Libre Antenne. Bonne journée à Dakar. Bonjour Annick.
Bonjour.
Vous êtes en région parisienne, Annick, et vous souhaitiez nous interpeller sur la situation au Yémen. On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission. Plus de 3 ans de guerre. Et vous êtes assez choqué, vous, par le manque de réaction de la communauté internationale, et notamment, puisque vous êtes à Paris, manque de réaction de la France.
Mais oui, tout à fait. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement français continue à livrer des armes via les Émirats arabes. Les Émirats et l'Arabie saoudite pour alimenter cette guerre. Je me demande aussi s'il n'y a pas une stratégie de la famine pour faire plier le Yémen. Et d'autre part, c'est aussi une part de mon indignation à une époque où on commémore autant les massacres, et ça je suis tout à fait d'accord, de la Grande Guerre. Et moi j'entends le plus jamais ça depuis que je suis née, je constate que le plus jamais ça, il a jamais été autant actif qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se massacre allègrement sans que... Il y a beaucoup de...
Vous parliez de famine, 14 millions de personnes sont au bord de la famine au Yémen. Vous souhaiteriez que la France, qui est tout de même le troisième exportateur de matériel militaire vers l'Arabie Saoudite, décide de mettre fin à ces livraisons. Je regarde, là, j'ai sous les yeux une déclaration du président Macron, c'était fin octobre, qui avait qualifié de pure démagogie l'idée d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite.
Mais oui, mais alors il faut qu'il explique sa pure démagogie, qu'il dise clairement que c'est économique et qu'à ce moment-là, on va effectivement, ça va poser des problèmes de chômage, mais à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on continue au nom du chômage, si je puis dire, à permettre le massacre de millions de gens, et est-ce qu'à un moment, il faut pas avoir une réaction saine et être un peu plus... entre guillemets, humain.
Merci Annick de nous avoir interpellés sur la situation au Yémen, 14 millions de personnes au bord de la famine, 10 000 morts depuis le début de cette guerre qui a commencé il y a maintenant un peu plus de 3 ans et demi. Bonne journée Annick, merci. 9h56 à Paris, ce sera certainement la dernière réaction de la semaine. Les violences politiques en Guinée. Hier, une nouvelle manifestation contre ces violences politiques a de nouveau été dispersée à Conakry. Mardi, on l'a suivi, des centaines de femmes de l'opposition ont également manifesté pour réclamer justice pour les personnes qui ont été qui ont perdu leur vie au cours des marches politiques en Guinée. Bonjour Aliou.
Bonjour.
Bienvenue, vous souhaitiez nous parler de cette actualité dans votre pays, on vous écoute. Hein.
Voilà, comme j'ai déjà dit en off avec,
au standard.
Vos collègues.
Le off, c'est voilà, le standard. Voilà,
voilà. Il faut que cette tuerie-là cesse et que la lumière soit faite pour situer enfin la responsabilité de chacun dans ces manifestations et dans ces tueries. Donc l'injustice et l'impunité est en train de gangréner, ce qui fait qu'aujourd'hui, la violence ne fait que monter. Et le gouvernement qui est en place, et en l'occurrence le Premier ministre et le Président de la République, ne font rien pour arrêter ces violences. Et aujourd'hui, il y a une discrimination totale, et c'est l'opposition républicaine, bien sûr, qui est visée, et qui sortent d'ailleurs qui font ces manifestations en revendiquant leurs droits.
Voilà. Le droit, quand vous dites leurs droits, le droit de sortir dans la rue, le droit de manifester, vous dites que rien ne se passe. Le ministre de la Justice, Cheikh Sako, on comprend la colère des familles, il l'a dit, mais il affirme que des actions en justice sont ouvertes de manière systématique pour chacun de ces cas. Et il souligne tout de même que, voilà, que dans ce contexte-là, il est quand même très très difficile de mener des enquêtes.
Oui, mais il dit qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, mais rien n'est fait. Depuis 2011, on a comptabilisé, selon l'opposition, il y a 103 morts. Et même hier, il y a eu deux qui sont atteints et qui risquent de perdre leur vie. Donc, seulement parce que un agent de la sécurité a été tué, malheureusement, la dernière fois. Et il y a eu 21 personnes qui ont été arrêtées aussi sur l'axe.
Alors, vous faites bien de préciser qu'il y a eu un policier qui a succombé à ses blessures la semaine dernière, ce qui porte, pour être précis, à 13 le nombre de morts parmi les forces de l'ordre depuis 2010 en Guinée. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons de la réforme de l'Union africaine. Certains diront, oula, c'est un serpent de mer. Eh bien, ce week-end, les chefs d'État africains sont attendus à Addis Abeba pour un sommet extraordinaire de l'organisation. L'objectif, c'est d'adopter un projet de réforme pour rendre cette organisation plus efficace, plus crédible, moins dépendante des bailleurs de fonds. Parviendront-ils à s'entendre ce week-end ? On en parlera évidemment lundi matin.